الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 18 من شهر ربيع الأول لعام 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 34 من شرح كتاب التوحيد للعلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Nous sommes donc le 17 décembre 2016 et nous entrons aujourd'hui, Inch'Allah, dans le 34e cours de l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par le savantissime, ce grand homme, conseiller, très cher, réformateur, savant de l'islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense avec largesse. قال رحمه الله باب ما جاء في النشرة chapitre suivant concernant النشرة النشرة c'est ce qu'on appelle حل السحر عن المسحور النشرة c'est le désengoûtement c'est le fait d'annuler le sortilège qui a atteint la personne ensorcelée. Car l'auteur, rahimahullah, nous a parlé de la sorcellerie. On a vu dans le chapitre de la sorcellerie sa gravité. Et on a vu que la sorcellerie a des effets réels qui peuvent toucher la personne tant bien dans sa vie que dans sa santé. Et aussi dans son raisonnement, dans ses relations avec autrui, comme le fait de séparer un couple, de forcer deux personnes à s'aimer, et bien d'autres choses encore, qui sont l'effet de la sorcellerie. Lorsque la personne est touchée, il faut forcément savoir qu'est-ce qu'il est bon de faire pour pouvoir justement annuler ce sortilège, cet envoûtement ayant atteint la personne concernée. Et comme il existe deux façons de le faire, une qui est licite et l'autre qui relève du shirk et du kufr, de la mécréance du polythéisme, l'auteur rahimahullah ta'ala a cité ce chapitre dans le but d'avertir les musulmans et de les sensibiliser dans le cas où l'un d'entre eux serait atteint de l'envoûtement, serait habité par un démon parmi les djinns, le mettre en garde contre le remède prétendu par bon nombre de gens, qui en réalité est un acte de shirk, wal'iyadu billah. Et aussi pour nous enseigner, bien sûr, la bonne façon de le faire. Ainsi, le lien qu'il y a entre ce chapitre et le livre « Munasabatul Bab » « L'Kitab al-Tawhid »« Anna min al-Nushra »« Ma huwa shirk » Le fait qu'il y a parmi les façons de faire ce désengoûtement une forme de shirk. Alors l'auteur, rahimahullah, qui avec ce livre met en garde contre le shirk et invite les gens au tawhid, a mentionné ce chapitre afin que les gens soient sur leur garde. Et comme nous l'avons dit, il y a deux façons de le faire. An-nushra qisman mubah wa muharram shirk. Il y a deux envoûtements. Un qui est permis, autorisé, l'autre qui ne l'est pas et qui en plus est une forme de shirk, comme on va le voir, inshallah. مناسبة الباب لما قبله ظاهرة لأنه تكلم عن السحر وذكر السحر فذكر حل السحر الحل الصحيح. Et le lien qu'il y a entre ce chapitre Et les chapitres précédents apparaissent clairement, puisqu'il nous a parlé de la sorcellerie. Maintenant, il nous parle du remède et de la façon légiférée, prescrite ou licite de procéder au désenvoûtement et d'attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Quant au mot An-Nushra, Al-Sheikh Salih Al-Fawzan Hafidhahullah a dit Ma'khouzatun minan nashr wa huwa at-tafriq wa hiya kama fassaraha al-Imam ibn al-Qayyim rahimahullah halu sihri 'anil mashhur. Ce que l'on appelle en arabe An-Nushra vient du terme arabe à la base An-Nashr, et ce mot lui-même signifie le fait de séparer. De quoi est-ce que l'on parle ici? De séparer l'envoûtement de l'envoûté. De séparer la sorcellerie de l'ensorcelé. Donc Al-Nushra, c'est le désenvoûtement. C'est le fait d'annuler la sorcellerie qui a atteint une personne. وَهِيَ ضَرْبٌ مِنَ الْعِلَاجِ. Et c'est une des catégories de remèdes. سمي النشرة لأنه ينشر به أي يزال ما أصاب المريض وما خامره من الداء. Et on l'appelle ainsi parce que, comme nous l'avons déjà dit, c'est le fait d'enlever le mal qui a atteint la personne, de cette personne. Lorsque l'auteur rahimahullah dit باب ما جاء في النشرة, chapitre concernant le désenvoûtement, An-Nushra, Alif wal-Lam, lil-ahdi dhihni, ay ma yatabadaru ila dhihn, wa hiya An-Nushra allati kanu yastakhdimunaha fil jahiliya. L'auteur, rahimahullah, quand il dit An-Nushra, le désenvoûtement, à la forme définie, il parle du désenvoûtement connu à l'époque anté-islamique, où il y avait justement une forme de shirk, une forme de polythéisme. Voici ce qu'est le désenvoûtement dont nous parlons. Et c'est important de parler de cela parce que nous vivons dans une époque où il y a un très grand nombre de sorciers qui se font passer pour des imams, pour des savants, des connaisseurs. Ils utilisent tous les nouveaux moyens mis à disposition, des sites internet, ils ont des chaînes télévisées, des stations de radio, et ils se donnent l'apparence de ce qu'ils ne sont pas, des connaisseurs de l'islam, des savants. Et ils induisent les gens en erreur et les incitent à attacher leur cœur à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et combien de gens ont été victimes de ces mauvaises personnes? Combien de gens ont été victimes de ces ennemis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui leur ont fait croire qu'ils leur font al-ruqya, la lecture du Coran, alors qu'en réalité, ils demandent le secours des démons. Donc, il est important de parler de ce genre de sujet. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit عن جابر وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. Le premier hadith est rapporté d'après Jabir ibn Abdullah رضي الله عنه qu'on interrogea le prophète صلى الله عليه وسلم à propos de la Nushra. Il répondit, c'est une des œuvres de Satan. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad selon une chaîne de rapporteurs solide, ainsi que par Abu Daoud. Ce dernier a dit, on interrogea Ahmad à ce propos, c'est-à-dire concernant la Nushra, il répondit, Ibn Mas'ud déteste tout cela. C'est le premier hadith. Voyez qu'ici, on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé sur la Nushra, sur le désenvoûtement. Al-Nushra. المقصود هنا النشرة المحرمة التي كانوا يقومون بها في الجاهلية. Ce qui est voulu ici, c'est le désenvoûtement utilisé à l'époque anti-islamique. Car vous voyez ici qu'on parle à la forme définie, ma'rifa, à la forme définie. On sait de quoi on parle. On parle du désenvoûtement qui était pratiqué à l'époque anti-islamique. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé concernant ce désenvoûtement en question, il répondit, c'est une des œuvres du diable, c'est une des œuvres de Satan. Parce que, vous allez voir que, à l'époque de Al-Jahiliya, ils utilisaient, lorsque des gens étaient envoûtés, ensorcelés, car la sorcellerie est très ancienne, elle existe depuis des époques très éloignées, n'est-ce pas qu'elle a existé à l'époque de Moussa alayhi salam. Eh bien, ces gens-là s'adonnaient à des actes de shirk. Wal'iyadu billah. Yarhamukallah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré le jugement de cette chose. Hiya min amali shaytan. L'imam Ahmad rahimahullah a été interrogé sur le désenvoûtement, c'est-à-dire celui pratiqué au temps de l'époque anti-islamique. Il répondit, Ibn Mas'ud, yakrahu hadha kullahu. Ibn Mas'ud déteste tout cela. Et chez les salafs, kalimat yakrah, kalimat karaha, yuradu biha al-tahrim. Ay anna Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, يرى أن هذا كله محرم. Et lorsque chez les pieux prédécesseurs, les salafs, vous entendez, il déteste cela, il dit que cela est détestable, ça ne veut pas dire que c'est simplement détestable, mais ça veut dire que c'est interdit, c'est haram. Parce que les salafs salih avaient tellement peur de dire halal et haram qu'ils prenaient leurs précautions. Contrairement à nous, à cette époque où beaucoup de gens disent halal et haram, et vous voyez beaucoup dans les livres, dans les ouvrages de fiqh, que l'imam Malik dit akrahu dhalik, l'imam Ahmad dit akrahu dhalik, et le sens de cela, ara an hadha haram, je déteste cela, je déteste cela, c'est-à-dire cela est interdit. Mais ils ont tellement peur de s'exprimer qu'ils prennent leurs précautions. Rahimahumullahu jami'a. On voit donc que l'imam Ibn Mas'ud, qui est un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je déteste tout cela. Tout cela, toutes les formes de nushra contenant du shirk, bien sûr. Car il y a une forme qui est licite, voire même prescrite, qui est ruqyatu shar'iyya, la lecture du Coran sur le malade, sur l'ensorcelé. Et c'est connu que lorsque la personne qui est habitée par un démon parmi les djinns écoute le Coran qui lui est récité à l'oreille dans le but d'attendre la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala, très souvent, le djinn se manifeste. Il se manifeste. Et ça, c'est le résultat de la lecture du Coran qui est une guérison. Très bien. Puis l'auteur dit, وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر يستعمل فيه النشرة قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. Le deuxième récit, on le retrouve dans le recueil de l'imam al-Bukhari, d'après Qatada, rahimahullahu ta'ala. Et Qatada, rahimahullahu ta'ala, c'est un grand imam. Il fait partie des savants des tabi'un qui ont étudié chez les sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Qatada a dit, j'ai questionné Ibn al-Musayyib. Et Ibn al-Musayyib lui-même est un élève des sahaba, radiyallahu anhu. Pour savoir si une personne atteinte d'un maléfice ou ne pouvant approcher son épouse pouvait avoir recours à la nushra ou à quelque autre moyen lui permettant d'annuler le sort, il répondit, il n'y a pas de mal à cela. On ne recherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a jamais été défendu. De quoi est-ce que l'on parle maintenant? De la nushra qui est permise. On ne parle pas ici d'aller faire de la sorcellerie pour enlever une autre sorcellerie. Car maintenant, cette parole a été dite. Elle a été dite et elle a été véhiculée et propagée. Que dans le cas où la personne qui est touchée par la sorcellerie ne trouve pas d'autre moyen, elle peut aller voir un sorcier pour qu'il fasse une sorcellerie pour la désenvoûter. Et cette parole est complètement fausse. Comme l'ont dit les grands savants enracinés dans la science du tawhid et de la sunna de notre époque, ils ont réfuté cette parole et ils ont démontré sa caducité et que c'est une erreur qui est contraire au Coran et à la sunna. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, « وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى » Et le sorcier ne réussira jamais d'où qu'il vienne. Tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui ne réussira jamais d'où qu'il vienne pour le consulter. Dans le Coran, Allah Azza wa Jal a montré que la sorcellerie, c'est du shirk, c'est du kufr. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ سِحْرَ. Suleyman n'a pas mécru, mais ce sont les démons qui ont mécru en enseignant aux gens la sorcellerie. Donc si tu te rends chez un sorcier, tu as fait de la mécréance. Et les preuves sont très nombreuses dans le Coran et la Sunna. Rajulun bihi tib. Wa hadhihi al-kalima tib tutlaq ala sihr. Yuqal rajulun matboub, ay mashour. On voit que on a employé le mot tib ici pour désigner la sorcellerie, alors qu'à la base le mot tib c'est la médecine utilisée pour soigner la personne malade. Qalu in hadhihi al-kalima tib istu'milat min ajli at-tafa'ul fa idha ra'aw maridan qalu innahu matboub tafa'ulan an yabra. Certains savants ont dit, comme l'a cité le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr dans son commentaire, qu'on a utilisé le mot tib, qui à la base veut dire médecine, pour citer et désigner la personne ensorcelée, pour faire de l'optimisme, dans le sens où la personne est ensorcelée, mais on se fait quand même une bonne opinion. Inch'Allah, cette personne va guérir. Et il y a aussi, donc ça c'est la première parole, et la deuxième, elle reviendra à Inch'Allah. Donc, quelqu'un qui est touché par la sorcellerie, ou qui est empêché de s'approcher de son épouse, et on appelle ça sihru sarf, la sorcellerie d'éloignement. Et il y a sihru al-atf, la sorcellerie de rapprochement. La sorcellerie de rapprochement, al-atf, c'est le fait d'ensorceler quelqu'un pour le rendre amoureux d'une autre personne. Et la sorcellerie à sorf, la désunion, c'est pour faire détester, se détester deux personnes. وَيَتْفَيَتْ عَلَّمُونَ مِنْهُمَا ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Et ils apprennent de ce par quoi ils vont désunir l'homme et sa femme. C'est dans le Coran ça. Donc il y a de la sorcellerie pour faire qu'une famille se sépare. Et une autre pour que des gens qui ne s'aiment pas forcément s'aiment les uns les autres. Donc une personne qui est touchée par la sorcellerie ou qui est empêchée de s'approcher de son épouse, أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنَشَّى. Est-ce qu'on peut lui faire, est-ce qu'elle peut avoir recours à la nushra? Est-ce qu'on peut essayer de la désenvoûter? La réponse fut la ba'sa bihi. C'est-à-dire, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela quand il s'agit, par exemple, d'une ruqya. Ar-ruqyatu shar'iyya, la lecture du Coran. Ou alors, ad-du'a lil-mas'our, l'invocation pour la personne ensorcelée. Ou alors, hal al-sihr, al-amal al-sihri, wujuduhu wa halluhu, de trouver la matière utilisée pour faire cette sorcellerie et de l'éliminer, de la brûler, de couper ses nœuds, de réciter le Coran, puis de la brûler. Tout cela est permis. Par contre, quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à avoir des rapports avec son époux, si c'est une femme, et son épouse, si c'est un homme. Est-ce qu'il lui est permis de faire ce que les gens font, de se rendre chez un homme qui se prétend connaisseur et qui va lui donner justement une ceinture que la personne touchée devra porter à sa taille pendant les rapports, afin justement d'enlever l'empêchement? Non. Ça, c'est un nushratu shirkiya. Ça, c'est le désenvoûtement qui relève du shirk et qui est interdit. Donc, lorsqu'il dit il n'y a pas de mal à cela, il parle de ce qui est permis. On ne cherche que le bien par ce moyen. Ce qui est utile n'a jamais été défendu. C'est-à-dire ce qui est utile parmi ce qu'Allah a permis. Subhanahu wa ta'ala. Parmi ce qu'Allah a permis. Car il y a des choses qui peuvent contenir, comme nous l'avons déjà vu, des utilités et qui sont pourtant interdites. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Dit, ils contiennent un grand péché et des utilités pour les gens. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Et le péché contenu est bien plus grand que ses utilités. Allah nous éprouve, subhanahu wa ta'ala. Il nous éprouve pour voir si on va lui obéir, si on va se conformer à ses ordres et suivre son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou non. L'auteur continue. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالْ لَا يَحُلُّ السِّحْرَ إِلَّا سَاحِرٌ. Il est rapporté de l'imam al-Hassan, et c'est al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui est un grand imam des tabi'in, qui a dit: la sorcellerie ne s'annule que par la sorcellerie. C'est pour ça qu'il est important d'étudier, parce que lorsque tu lis cette parole, tu penses avoir compris, tu te dis donc forcément annuler la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Vrai ou faux? Mais ce n'est pas ça qui est voulu ici. Ici, Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, parle de la façon interdite d'annuler qui était répandue à l'époque anti-islamique. Il ne parlait pas de la lecture du Coran sur le malade. Il ne parlait pas de l'invocation d'Allah pour le malade. Il ne parlait pas de trouver la matière utilisée, puis la défaire. Non, il ne parlait pas de cela. Ce sont des choses présentes dans les textes du Coran et la Sunna. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de ce que ces gens-là font, de désenvoûter les gens en usant de la sorcellerie. Wal'iyadu billah. Puis il va, l'auteur, rahimahullah, va nous citer une parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui justement a défini les catégories de désenvoûtement en disant قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, la nushra est l'action d'annuler un sort. Elle est de deux sortes. La première consiste à annuler le sort à l'aide d'un autre sort. Donc, user de la sorcellerie pour annuler une autre sorcellerie. Tu sors d'un mal et tu entres dans le même. Tu ne t'es pas soigné. Comme a dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, Hafidahullah, il dit que tu te soignes, tu enlèves de toi quelque chose qui te gêne, mais tu te détruis en vérité, parce que tu te causes l'entrée dans le feu si tu meurs dans cet état. Donc, il vaut mieux rester malade et être soulagé après qu'aller au feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Donc ça, c'est interdit. C'est ce type de nushra qui est considéré comme l'œuvre de Shaytan. Et c'est sous cet angle que l'on doit comprendre les propos de l'Hassan. Quand l'Hassan a dit justement, on ne défait la sorcellerie que par la sorcellerie. Aucun sorcier ne défait la sorcellerie. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Le principe de ce type de nushra est le suivant. Le sorcier et la personne ensorcelée se rapproche de Shaytan en accomplissant ce qu'il désire, et ce dernier annule alors son action sur la personne atteinte. Wal'iyadu billah. C'est quand même quelque chose de gravissime de faire ça, d'aller voir un sorcier. Et combien les gens le font? Son fils, sa fille, son épouse, son frère, sa sœur, quelqu'un de la famille est touché, est envoûté, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller réunir une somme d'argent avec laquelle ils vont payer un sorcier, un mushrik, un adou lillah azza wa jal, un ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala, et ils vont lui dire, fais-moi quelque chose. Non seulement ils vont dépenser leur argent, mais en vérité ils vont dépenser leur aqidah, leur croyance. Car quand ils vont revenir, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est bon, nous avons été voir quelqu'un, ça va partir. عَلَّقُوا قُلُوبَهُمْ بِغَيْرِ اللَّهِ. Et en faisant ça, ils ont attaché leur cœur à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. La seconde est la nushra, faisant appel à la ruqya, les demandes de protection, les médicaments et les invocations permises. Tout ceci est licite. Ça, c'est ce qui est permis. Allah tabaraka wa ta'ala ne nous a pas laissé sans remède aux maladies et solutions aux problèmes. Mais il ne faut pas utiliser les mauvaises choses. On peut avoir recours à la ruqya. Et très souvent, beaucoup de gens, lorsqu'ils ont recours à la ruqya, étant donné qu'ils sont faibles de foi et qu'ils n'ont pas le tawhid et la bonne compréhension du tawhid, ils font une ou deux ruqya et ils disent, j'ai fait ruqya, ça ne marche pas. Je vais aller donner de l'argent à un tel et ça va marcher. Subhanallah. Wa hadha ibtila'un min Allah. Et c'est une épreuve d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah fait ce qu'il veut. C'est lui qui te donne la guérison. Allah a dit dans le Coran, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ils ne parviennent à nuire à aucun sans la permission d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, tu vois bien que tu dois te rattacher à Allah et demander à lui seul la guérison. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullahu ta'ala, a a détaillé ce que on vient de dire. Donc il dit la deuxième catégorie, النوع الثاني الرقية بالأدوية المباحة. فهناك أدوية مباحة يذهب الله بها السحر. Il y a des médicaments permis, comme des plantes naturelles, comme certaines qui sont connues dans la médecine prophétique, comme Al-Qist Al-Hindi, le costus, c'est une plante, Al-Talbina, et d'autres choses qui sont connues dans la médecine prophétique, qui peuvent être une cause pour enlever la sorcellerie. يعرفها الحذاق وأهل التجربة وأهل العقيدة السليمة تنفع بإذن الله في إزالة السحر. Et les gens doués, connaisseurs, qui ont une bonne croyance, connaissent l'utilisation de ces remèdes-là. مع ذكر الله, avec le rappel d'Allah, ومع التعوذ, la demande de protection à Allah عز وجل, ومع الرقية, ومع قراءة القرآن, la lecture du Coran, فإذا اجتمعت هذه الأمور المباحة نفع الله بها. Et lorsque toutes ces choses s'unissent, Allah Azza wa Jal apporte le résultat recherché. لكن بشرط حسن الظن بالله عز وجل واعتقاد أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. À condition d'avoir une bonne opinion d'Allah et d'avoir la conviction que la guérison ne vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc voici le résumé un peu de An-Nushra. Et c'est ainsi que s'achève l'étude de ce chapitre. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, dit « Babu ma ja'a fi tatayyur ». Chapitre suivant, concernant les augures. Et les augures, comme nous l'avons dit et expliqué, il s'agit du fait d'avoir un mauvais présage, un mauvais pressentiment qui va nous pousser à arrêter quelque chose que l'on a entrepris, ou à s'abstenir de faire quelque chose que l'on voulait faire parce que l'on a vu quelque chose, ou alors on a entendu un son, voire même un chiffre, un jour de la semaine, comme on va donner quelques exemples, Inch'Allah ta'ala. Et lorsque l'auteur dit « Bab ou madia'a fi tatayyur » chapitre concernant les augures, ay madia min al wa'id al shadid fi man yatatayyar wa annahu shirk lima yaqum fi al qalbi min al ta'alluq bi ghayri Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire concernant la menace lourde qui pèse sur le dos de celui qui fait ce genre de choses, et concernant le jugement de cette chose qui est du shirk, du polythéisme, car cette chose pousse le cœur à s'attacher à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le lien entre ce chapitre et Kitab al-Tawhid apparaît clairement, c'est que al-tatayyur qad yakunu shirkan akbar أو شركا أصغر فناسب أن يذكره في كتاب التوحيد الذي يحذر فيه من الشرك بأنواعه. Donc le mauvais augure ou les augures peuvent être du polythéisme majeur, elles peuvent être aussi du polythéisme mineur. Il convenait donc de mentionner un chapitre sur ce sujet dans cet écrit Kitab ou Tawhid, pour mettre en garde contre le shirk sous toutes ses formes. Munasabatul Bab lima qabla, le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents. Vous avez vu dans les chapitres précédents que l'auteur a parlé de la sorcellerie. Il a parlé de la voyance. Maintenant, il parle du mauvais augure, parce que toutes ces choses-là sont à peu près pareilles dans le sens où ce sont des mauvaises croyances. Et l'auteur, rahimahullah, a dit, pardon, le Cheikh Saleh a dit, ومناسبة هذا الباب لما قبله أن فيه بيان نوع من أنواع الشرك والاعتقاد الباطل المخل بالتوحيد وكان الشيخ رحمه الله يذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وما يناقضه أو ينقصه من العقائد والأقوال والأفعال الباطلة ومن ذلك التطير. Donc c'est le résumé de ce que vous avez entendu. At-tatayyur, c'est le fait, c'est le pessimisme, le fait d'être pessimiste et de se dire j'ai vu telle chose, je ne vais pas réussir à faire telle chose. On peut le faire avec un chiffre, comme le chiffre 13. Ici en France par exemple, les gens du livre le font beaucoup, au point où il y a des dans des bâtiments la porte 1, 2, jusqu'à 11, 12, et ensuite ça passe à la porte 14. Où est la porte 13? Elle n'existe pas, elle porte malheur, la porte 13. Dans certains avions, il n'y a pas la place 13. Parce que, pour eux, ça porte malheur. Peut-être qu'ils pensent que la place 13, elle va tellement être lourde que l'avion va tomber, je ne sais pas. Et il y a التطير بيوم الجمعة عند النصارى خاصة إذا كان الثالث عشر. Le mauvais augure, le pessimisme qu'ils se font, donc les chrétiens, le vendredi, surtout si c'est le vendredi 13. أما نحن فهو أفضل أيام الأسبوع بفضل الله عز وجل وهو عيدنا ما عندنا تشاؤم فيه أبدا. Quant à nous, le vendredi, c'est le meilleur jour de la semaine. Alhamdulillah. Et on vient, on écoute le rappel, on part avec une foi, Inch'Allah, qui augmente. Et si c'est vendredi 13, certains arrêtent les activités, ils ne sortent plus de chez eux. Pourquoi tu ne sors pas de chez toi? Chez toi, il peut t'arriver quelque chose. Tu ne vas rien manger, rien boire, tu peux faire une crise sans rien. Tu vas fuir quoi? Le destin de ton créateur, subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le résultat de l'attachement des cœurs à un autre qu'Allah. Tu deviens l'esclave de toi-même, l'esclave de toutes les fausses croyances, l'esclave de tout ce que l'on entend, l'on lit et à quoi on croit. Tu n'es plus libre. Libère-toi par la ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Libère-toi par le tawhid. Crains Allah, espère en Allah azza wa jal. Place ta confiance en Allah et chemine jusqu'à ce qu'Allah te rende malade, te rende pauvre, te rende riche, te marie, te donne des enfants, t'en reprenne. C'est lui qui décide. Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Et comme le dit le Cheikh Saleh al-Fawzan, ici, que à la base, at-tayyur vient du terme tayyir. Tayyir, c'est l'oiseau. Comme on l'a déjà vu, les gens de l'époque anti-islamique, lorsqu'ils voulaient entreprendre une affaire ou voyager, ils allaient faire ce genre de consultation, wal'iyadu billah. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils lançaient, ils poussaient l'oiseau dans son nid, ils l'excitaient pour qu'il s'envole, et ils regardaient la direction qu'il prenait. S'il prenait la même direction que voulait prendre, alors il se disait c'est bon. S'il partait autre part, alors il fallait aller autre part, wal'iyadu billah. Tayyib, mais s'il ne vole pas, tu fais quoi? S'il reste, tu vas chercher un autre oiseau qui va te dire où tu vas aller. Donc ça, c'est ashirku billah subhanahu wa ta'ala. Ash-Shaykh al-Fawzan a dit fa huwa 'aqidatun jahiliyya bal innahu mawjoodun fil umam al-qadima. C'est une croyance anti-islamique. C'est une croyance anti-islamique ayant existé depuis les temps anciens. فَهَاُولَاءِ قَوْمُ فِرْعَوْنَ تَطَيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ. Le peuple de Pharaon comme on va le voir dans le premier verset, a tiré le mauvais augure de Moussa et ceux qui sont avec lui. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé à Moussa alayhi salam. C'est un prophète qui a des particularités, qui a des spécificités que beaucoup n'ont pas eues parmi les prophètes qui sont tous nobles chez Allah tabaraka wa ta'ala. Et pourtant, quand il les a invités à l'adoration d'Allah, ils se sont dit, il nous apporte le malheur. Il vous apporte le tawhid. Il vous apporte le jannah, le paradis. Il vous délivre du shirk, du kufr, de la bid'a. Et vous ne trouvez rien d'autre à dire qu'il vous apporte le malheur. Subhanallah. Et ça, comme a dit Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, ça a toujours existé. At-tasha'um bil-anbiya, thumma at-tasha'um bil-ulama, wa-du'at ilal-haq. Le mauvais augure que les gens se font quand ils voient les prêcheurs au vrai. Ils arrivent, ils les appellent au tawhid. N'adorez qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. N'innovez pas dans la religion d'Allah, azza wa jal. Qu'est-ce qu'ils se disent? Le mal va arriver. Il nous amène le mal. Regardez un peu dans le soufisme. Regardez un peu dans le soufisme. Lorsque vous venez et vous dites aux adeptes de la secte qui suit la confrérie Tijaniya, Tariqa Tijaniya, lorsque tu viens les appeler au tawhid, et que tu leur dis qu'on ne doit pas adorer Ahmad al-Tijani, on ne lui demande pas la baraka, on ne lui demande pas la guérison, qu'est-ce qu'ils disent? Satusibuna musiba. Un malheur va nous toucher. Pourquoi? Li'annahu takallama fi shaykh. Parce qu'il a parlé sur le shaykh. Et ils sont comme ça. Ils tremblent de peur parce que tu leur as dit U'budullah, ud'ullah, wahdahu la sharika la. Parce que tu leur as dit n'adorez qu'Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. نخاف أن يأتينا زلزال فيأخذنا الشيخ بعذاب أليم والعياذ بالله. On craint que le cheikh fasse trembler la terre et nous prenne d'un châtiment douloureux. Quel cheikh? Quel cheikh? Et bah qui nous prenne maintenant pendant qu'on parle de lui ou d'autres que lui? Subhanallah, comment pouvez-vous croire une chose pareille? Ô serviteur d'Allah, revenez à la raison. C'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala. Ma yaftah Allah lin-nas min rahmatin fala mumsika laha. C'est le Coran. Ce qu'Allah ouvre aux gens comme miséricorde, personne ne peut l'empêcher. Wa man yumsik fala mursila lahu min ba'di. Et ce qu'il retient, personne après lui ne peut le repousser, ne peut le donner. Inna Allah yumsiku as-samawati wal-ard an tazula. وَلَا إِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا أَيْ مَا أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ. C'est Allah qui retient les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala. Pas même le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne guérit quelqu'un, ne fait tomber la pluie, n'amène la baraka. Là, tu vas dire quoi? Je déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Je n'aime pas le prophète? On n'aime pas le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Al-Wahhabiyya ya'touna bi al-masa'ib fil bilad. La, ya'touna bil-islah. Ya'touna bil-da'wati ila ibadatillah. Ya'touna ka ila an tad'u Allah, wa an tatluba min al-razzaq rizq, wa min al-shafi al-shifa. Subhanahu wa ta'ala. Ils disent, c'est la secte des Wahhabiyya. Ils apportent le malheur dans le village. Quand ils arrivent, ils amènent avec eux le mal. De quel mal est-ce que tu parles? D'adorer Allah seul? De suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si c'est ça le mal, alors qu'Allah nous fasse mourir dans ce mal. Car ce n'est que le bien par Allah. Donc, vous allez voir dans le premier verset que nous allons lire. Wa qawlillahi ta'ala. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens rapproché, en vérité, leur sort dépend uniquement d'Allah, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Regardez la clarté de ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous parle du peuple de Moussa alayhi salam. Lorsqu'ils ont tiré le mauvais augure de Moussa et des gens qui sont avec lui. Comme si on tirait le mauvais augure du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba. Ils nous ont amené tout le bien et nous ont mis en garde contre tout le mal. Et nous, la seule chose qu'on va trouver à faire, c'est de dire qu'ils nous ont amené le malheur. Wal-iyadu billah. Le Cheikh Saleh al-Fawzan a dit والحق أن موسى ومن معه من المؤمنين هم سبب الخيرات. Et la vérité, c'est que Moussa et les croyants qui étaient avec lui sont la cause de la présence du bien. وهم سبب البركات, la cause de la bénédiction. لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلحون في الأرض بالطاعات فتنزل الخيرات. Car les envoyés d'Allah réforme la terre par l'obéissance d'Allah, puis le bien descend. Comme qala ta'ala, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Regardez le verset. Le sens rapproché, Allah Azza wa Jal dit, et si les habitants des cités, des villages, avaient eu foi et piété, on aurait ouvert sur eux les bénédictions des cieux et de la terre. Mais ils ont démenti, on les a donc repris à cause de ce qu'ils ont commis comme péché. Vous voyez, dans beaucoup de pays, il y a des villages où il y a tout. Il y a de la nourriture qui pousse dans les jardins des gens. Ils peuvent manger des fruits, ils peuvent vivre chez eux. Mais on ne trouve pas de baraka. On ne trouve pas de bénédiction. Pourquoi? On demande à un autre qu'Allah, Azza wa Jal. On demande à un autre qu'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Comment veut-on obtenir cette baraka? Puis quand le bien nous vient, on tire mauvais augure du bien. Et on dit c'est à cause de cette chose que le mal nous atteint. Les croyants sont la cause du bien. Et ils appellent au bien et corrigent les gens. Donc, أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ, n'est-ce pas que leur sort ne dépend que d'Allah, وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Ensuite, l'auteur dit, وقوله, قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا طائركم معكم, c'est-à-dire, votre mauvais présage est avec vous-même. أئن ذكرتم, agissez-vous ainsi si on vous fait le rappel, بل أنتم قوم مسرفون. Vous êtes plutôt un peuple qui transgresse. Ce verset est dans Sourate Yassin. On voit dans ce verset que lorsque des messagers ont été envoyés vers un peuple, les peuples, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Tatayyarna bikum. Nous tirons de vous le mauvais augure. Vous nous appelez à l'adoration d'Allah, vous nous appelez au tawhid, et nous on voit que vous amenez le mal avec vous. Qu'est-ce qu'ils leur ont répondu? قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ. Ils leur ont dit, votre mauvais présage est avec vous. مَا يُصِيبُكُمْ مِنَ الْبَلَايَ وَالشُّرُورِ وَالْمَصَائِبِ هَذَا مَعَكُمْ وَبِسَبَبِ مَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ هَذَا مَعَكُمْ. Ce que vous avez commis, ce qu'il vous touche comme mot, c'est avec vous. C'est à cause de ce que vos mains ont fait. Et ça ne dépend que d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. كما قال الشيخ الفوزان قالوا طائركم معكم أي ما أصابكم فأنتم سببه c'est-à-dire ce qui vous a touché c'est vous qui en êtes la cause لأن سببه الذنوب والمعاصي التي تصدر منكم والكفر car la cause de tout cela ce sont les péchés que vous commettez et la mécréance que vous faites. Donc ces gens-là, là, qui sont touchés par des mots, en réalité, les mots qui les ont touchés, c'est parce qu'ils ont été demandés à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru qu'autre qu'Allah pouvait les bénir, pouvait leur donner la subsistance, un rizq. Ils ont cru que quand ils étaient malades, on pouvait demander à autre qu'Allah, azza wa jal. Puis, ils se sont plaints quand ils ont été touchés par les maladies, par les malheurs. Voilà comment Allah leur a répondu. Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurayrata radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, la adwa, wa la tiyara, wa la hama, wa la safar, akhraja, zada muslim, wa la naw'a, wa la ghoul. Le hadith suivant est rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas de contagion, ni d'augure, ni d'oiseau de mauvaise augure. Et le mois de Safar ne porte pas malheur, rapporté par al-Bukhari et muslim. L'imam muslim ajoute, point d'astre, qui n'a une quelconque influence, ni roule à craindre. Et on va lire l'explication de tout cela, Inch'Allah ta'ala. Mais pour résumer d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nafa al-i'tiqadat al-jahiliya allati wujidat fi tilkum al-ahd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié toutes les croyances de l'époque anti-islamique présentes à ces époques, qui sont pour certaines encore présentes jusqu'à maintenant. Dans la première, il dit « La adwa »« Al-adwa intiqal al-marad min shakhs ila shakhsin akhar »« La adwa ay »« Al-marad la yantaqilu min nafsihi duna iradatillah azza wa jal » Il n'y a pas de contagion. Est-ce que cela veut dire que la contagion n'existe pas? Une maladie ne peut pas toucher une autre personne proche de la personne malade? Non, ce n'est pas ça qui est voulu. Qu'est-ce qui est donc voulu? C'est nier le fait que la maladie se déplace d'une personne malade pour atteindre une autre indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala comme on le croyait à l'époque anti-islamique. Et comme on peut le croire aussi pour certaines personnes à cette époque. Aussi, ça peut être la contagion d'une maladie d'un endroit vers un autre. D'une bête vers une autre, comme le dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan. Donc, la maladie peut être contagieuse. Et on peut faire les causes pour s'en préserver, s'en protéger, bien sûr. Mais on ne croit pas que la maladie se propage d'une personne à une autre ou de plusieurs personnes à plusieurs autres, indépendamment de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le dit le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il explique cela en détail et il dit ce que je viens de vous résumer. Donc c'est ce que croyaient les gens de l'époque anti-islamique. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans des hadiths, nous a demandé de nous éloigner de certaines personnes ayant certaines maladies. Et il a même dit aux gens qui ont la peste de rester en quarantaine. C'est bien parce que la contagion existe. Il ne se contredit pas. Mais il renie une fausse croyance. C'est ça qui est voulu. La deuxième chose, wala tiyara, et il n'y a pas de mauvais augure. Et là, vous le comprenez, C'est-à-dire que on ne doit pas se dire que puisqu'on a vu tel animal, puisqu'on a lu tel chiffre, tel mot, puisque l'on a entendu telle parole, alors il va nous arriver telle et telle chose. Ça, il n'y en a pas du tout. Et avoir une telle croyance, c'est du shirk. Et ça peut être du shirk asrar, tout comme ça peut être du shirk akbar. Quand est-ce que c'est du shirk asrar? Si l'on croit que c'est une cause. Si la personne croit que la vision de tel animal va lui causer un mal, elle a commis du shirk, du polythéisme mineur. Mais si elle croit que c'est l'animal lui-même, indépendamment de la volonté d'Allah, c'est-à-dire que ce n'est pas une cause, mais c'est cet animal qui va te faire ce mal, indépendamment de la volonté d'Allah, là c'est du shirk akbar. Wal'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète a nié cette croyance, sallallahu alayhi wa sallam. الشيخ الفوزان دي وإذا وجدت في نفسك تشاؤما أو كراهية فتوكل على الله وأقدم. Si tu sens en toi une forme de pessimisme ou une forme d'augure, tu te dis peut-être qu'il va m'arriver telle chose, place ta confiance en Allah et fais la chose. C'est-à-dire efface cette croyance de ton cœur. Il dit et contrairement à la contagion, l'augure n'a pas de base. La contagion, elle existe. L'augure n'existe pas. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wala hama. Il n'y a pas de hama. Al-hama ta'irun yusamma al-bouma. Et al-hama, c'est un oiseau, c'est le hibou. Pourquoi est-ce qu'il a dit il n'y a pas de hibou? Parce qu'à l'époque anti-islamique, lorsqu'un hibou se posait sur le toit de leur maison, ou lorsqu'il voyait l'hibou qui volait devant eux, il disait un mal va m'attendre. Demain, soit une personne va mourir, ou une autre va tomber malade, il va se passer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a vu ce hibou qui n'a rien demandé à personne, qui est une créature d'Allah Azza wa Jal, qui n'est miskine. Le pauvre oiseau, peut-être il n'arrive même pas des fois à quitter son nid et il va t'amener du mal. Subhanallah. Allahu Akbar. Wallahi, valamul bouma. Ils ont été injustes envers l'hibou. Parce que l'hibou, lui, il fait du tasbih, il fait du takbir à sa façon. Car tous les animaux, toutes les créatures, même les objets inertes, proclament la grandeur d'Allah. Et vous avez la raison, et vous croyez que cet animal qui n'a pas la raison est la cause d'un malheur qui va vous atteindre. وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم قال نعى إلي نفسي أو أحدا من أهلي كانوا يتشاءمون بها ويقولون البوم لا يقع إلا على الخراب فهذا من عقيدة الجاهلية. Ça, c'est la croyance des gens de Al-Jahiliyyah. Il y a une autre croyance qu'ils avaient. وَبَعْضُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِذَا قُتِلَ الْقَتِيلُ وَلَمْ يُؤْخَذْ لَهُ بِثَأْرٍ فَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْهُ طَائِرٌ يُسَمَّى الْهَامَةُ وَيُصَوِّتُ أَسْقُونِي يعني خُذُوا بِثَأْرٍ ولهذا يقول الشاعر طيب ذكر بيتين. Il dit, il y a aussi une autre croyance qu'ils avaient, c'est que lorsqu'une personne était victime de l'assassinat et qu'on n'avait pas vengé cette personne, il y avait un oiseau qui sortait de cette personne et qui disait « abreuvez-moi, abreuvez-moi », c'est-à-dire « vengez-moi, vengez-moi ». Il fallait qu'on venge cette victime. Allahu Akbar. Taïe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « wala safar » et pas de Safar. Il y a plusieurs avis sur ce qui est voulu ici. Le premier, comme a dit Cheikh Al-Fawzan, An al-Murada bi Safar, Shahru Safar. C'est le mois égyrien appelé Safar. Pourquoi? Li'annahum kanu fil jahiliyyati yatasha'amuna bi hadha ash-shahr. Car à l'époque anti-islamique, ils avaient le mauvais augure quand ce mois arrivait. Fala yatazawwajun, ils ne se mariaient pas. Wala yusafirun, ils ne voyageaient pas. Wala yutajirun, ils ne commerçaient pas. Regardez, la mauvaise croyance, ce qu'elle te fait perdre. Tu ne te maries pas, tu ne fais pas de commerce, tu ne voyages pas. Wayataqiduna annahu shahrun mash'um. Il disait que c'était un mois ayant le mauvais augure. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réfuté cette fausse croyance et leur a dit wala safar. Il n'y a pas de safar. Cette croyance que vous avez sur le mois de Safar est fausse. La deuxième parole, an al-murad bi safar maradun yakunu fil ma'ida yaz'umun annahu yu'di ghayra al-musab bih. Il disait que Safar, c'était une maladie qui touchait l'estomac de la personne et qui allait forcément se propager vers une autre personne. Cheikh Fawzan conclut, walakin sawa'un qila hadha wa hadha kulluhu manfiyun. Que ce soit ceci ou cela, le premier ou le deuxième avis, ces deux choses-là sont niées par les textes. Sawa'un tasha'amu min ash-shahr aw tasha'amu min al-marad. Qu'ils ont eu le mauvais augure à cause du mois ou à cause de la maladie, kulluhu la aslala. Tout ceci n'a pas de fondement. On ne doit pas avoir ces mauvaises croyances. فَلَيْسَ فِي شَهْرِ شُؤْمٌ وَلَا فِي الْمَرَضِ. Il n'y a pas cela dans le mois ni dans la maladie. وَإِنَّمَا الْأَمْرَضُ بِيَدِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Les maladies ne sont que dans la main d'Allah Azza wa Jal. هُوَ الَّذِي يُنْزِلُهَا وَهُوَ الَّذِي يَرْفَعُهَا. C'est lui qui fait descendre les maladies. C'est lui qui les enlève. هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَهُوَ الَّذِي يَشْفِي سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Il rend malade qui il veut, il guérit qui il veut. La dakhla li shuhur wa la dakhla li ghayriha fi hadha al-amr. Il n'y a aucun lien entre avec le mois ou avec toutes ces choses-là. On s'arrête ici inshallah ta'ala et on continue au prochain cours. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.